religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la première partie de cette émission, nous revenons sur les suites de la publication du rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, appelée aussi rapport Sauvé, du nom de son président Jean-Marc Sauvé. Pour rappel, donc, sur la période 1950 à 2020, soit 70 ans, le nombre de victimes d'agressions sexuelles perpétrées par des clercs, mais aussi des laïcs travaillant dans des institutions d'Église, a été estimé à 330 000. Un chiffre vécu comme une déflagration. Dans ses recommandations, la CIAZ appelle à un changement profond du mode de gouvernance de l'Église, avec notamment un repositionnement de la fonction du prêtre, une place accrue donnée aux femmes et aux laïcs. Et pour y voir plus clair dans cette révolution, dans cet aggiornamento que devrait opérer l'Église, avec nous en ligne de Strasbourg, Marie Jautiel, médecin, professeure d'éthique à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg, directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Marie Jautiel, bonjour.
Bonjour.
La question de la pédocriminalité au sein de l'Église est un sujet que vous avez longuement étudié. En 2019, vous avez publié chez Bayard « L'Église catholique face aux abus sexuels », un ouvrage de référence complet, très rigoureux, sur le sujet avec un état des lieux, une typologie des auteurs et les traumatismes particuliers des victimes. Alors déjà, ce rapport, est-ce que pour vous ça a été une surprise ?
Je dirais oui et non. Évidemment, quand on reçoit des chiffres de cet ordre et qu'ils confirment ce qu'on soupçonnait depuis un certain temps, c'est toujours un étonnement quand même. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'y attendait. Ça fait quand même un moment qu'on devine ce qui peut en être de la situation française. Et je le dirais en lien aussi avec les rapports d'enquête qui ont été faits dans de nombreux autres pays, en Irlande, aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, mais aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc., en Australie, évidemment. Alors, les chiffres changent un tout petit peu d'un pays à l'autre, mais en même temps, on voit que il y a quand même des chiffres assez énormes un peu partout. Alors, il faut bien comprendre, là on pointe l'Église, mais dans la société, l'aggiornamento ne commence que maintenant. Ça fait depuis quoi, 4, 5 ans, 6 ans peut-être que la société se réveille. Donc c'est une situation difficile, c'est une situation problématique pour l'Église, autant sinon plus que pour la société, même si il y en a un peu partout, parce que dans l'Église, l'Église est fondée sur le Christ, et vraiment l'abus est absolument intolérable.
Alors, est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui, Marie Jautiel, que l'Église est entrée maintenant dans l'après-sauvé, qu'elle ne peut plus se dérober aux recommandations de la CIAZ ?
Absolument. Elle ne peut plus parce que jusqu'à présent, dans l'Église, et je l'avais souvent mentionné, on publiait dans les diocèses quelques cas. Alors, c'est vrai que c'est les cas qui en ont référé à l'Église au niveau du diocèse, en ont référé souvent au niveau de la justice, mais ce n'était pas du tout significatif. Il n'y avait aucun travail qui était fait par ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, même si c'est difficile, tragique, extrêmement douloureux pour l'Église, elle a fait malgré tout un travail avant-gardiste en nommant cette commission. Alors, c'est l'Église, hein, la COREF, plus la conférence épiscopale française qui ont demandé ce rapport. Et je crois que ce travail-là, maintenant, il s'agit de l'acter dans la pratique. Il faut savoir que les chiffres, aussi douloureux soient-ils, aussi terribles soient-ils, parce qu'ils disent une immense souffrance des victimes, mais la commission Sauvé a rappelé combien ça a été difficile pour les différents membres d'écouter les victimes. Malgré tout ça, on sait pertinemment, et le rapport le souligne, que tout le monde n'a pas encore parlé, qu'il y a bien d'autres victimes qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas voulu parler. Les deux cas existent. Certains vont se réveiller, certains l'ont déjà fait depuis la publication de ce rapport. Mais c'est donc une situation dont il faut prendre acte. Il faut mettre en place des structures de prévention, des mesures ponctuelles sont importantes pour la prévention, mais ne sont pas suffisantes parce qu'il faut vraiment engager aussi une transformation de certaines pratiques.
Alors précisément, c'est sur cette transformation que j'aimerais vous entendre. Vous avez publié dans Le Monde une tribune, Marie-Jo Thiel, où vous parlez effectivement notamment de la représentation, j'ai bien retenu ce terme, la représentation problématique du prêtre. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là.
Oui, parce que dans l'Église catholique, le clerc, le prêtre et tous les ordonnés, mais moins le diacre encore qu'eux, quand on parle des cadres de l'Église, ça passe jusqu'au laïc d'ailleurs dans le rapport, vous l'avez souligné dans votre mot d'introduction et je vous en remercie parce que c'est une nouvelle dimension qu'on n'avait probablement presque jamais évoquée, mais le prêtre tient dans l'Église catholique une place tout à fait particulière. C'est le seul détenteur de tous les pouvoirs dans l'Église, le pouvoir de légiférer, le pouvoir judiciaire, donc au niveau de la justice, et le pouvoir exécutif. Il est dans une position de sacralisation depuis le Concile de Trente. La question du célibat des prêtres est liée à cela. Et il est dans une position où certains, je dis bien certains parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans cette figure du prêtre, considèrent qu'ils sont des alter Christus, c'est-à-dire des autres Christ, même quand ils ne sont pas dans une perspective sacramentelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, par exemple, en train de célébrer l'Eucharistie, la messe, si vous voulez. Donc ça, c'est extrêmement problématique parce qu'ils se permettent beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment, c'est une règle de bon sens, séparer les différents pouvoirs dans l'Église. Le pouvoir d'ordre, le pouvoir spirituel, il peut avoir une place tout à fait particulière, effectivement, pour les prêtres, mais la gouvernance n'exige pas que l'on soit ordonné. Des femmes pourraient très bien assurer une partie de cette gouvernance, de même pour légiférer, la législation, la production de textes, la production de normes à l'intérieur de l'Église, eh bien, elles pourraient être largement partagées, hommes, femmes, clercs, laïcs, etc. Donc l'institution de l'Église doit absolument se réformer. Le pape François en a très largement pris conscience et la réflexion dans le cadre synodal qui est actuellement en cours dans l'Église catholique, puisqu'il a introduit cela le week-end dernier et qui doit durer jusqu'en 2023, est largement propice aussi à ce dialogue en Église qui implique tout le monde, le haut, le bas, la droite, la gauche, les laïcs, les clercs, les hommes, les femmes, etc.
Oui, mais dans le même temps, on a pu entendre le pape François dire « ce synode, eh bien, ça n'est pas un parlement ». Donc il y a quelque chose qui n'est pas très démocratique, non ?
L'Église ne s'est jamais considérée comme une démocratie. Elle a peur de ce mot. En tout cas, la curie a peur de ce mot et les instances hiérarchiques de l'Église ont peur de ce mot. Or, c'est la hiérarchie, puisque même dans l'Église, les évêques sont au-dessus des prêtres. Vous voyez, donc la hiérarchie est très fortement mise en place. C'est aussi une perspective où il reste du patriarcalisme de manière assez forte. Donc, c'est vrai que ce terme de démocratie fait peur. Bon, j'ai envie de dire, il y a le mot démocratie, mais il y a aussi un certain fonctionnement démocratique qu'il faut essayer d'intégrer. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je crois que c'est ça ce qu'il faut retenir, mais il faut malgré tout, moi je maintiens, insuffler un esprit démocratique, non pas au sens où je crois que c'est ça ce qui fait peur, où tout est remis entre les mains de tout le monde. C'est au fond, nous avons quelque chose de semblable dans l'Église au sens où les croyants, quand ils sont au niveau de leur foi, c'est ce qu'on appelle le sensus fidei ou le sensus fidelium, le sens de la foi, le sens des fidèles, tient, et le pape l'a souvent rappelé, détient la vérité de la foi, c'est-à-dire détient ce qu'il est juste de faire, de penser, de mettre en norme au niveau de l'Église. Donc vous voyez, quand on le dit comme ça, il y a bien cette perspective démocratique, mais c'est une perspective démocratique reliée à la question de la foi. Donc même si le mot démocratie fait peur, le sens de la foi est quelque chose de très très important dans l'Église, et c'est cela qui est au fond de mise avec la perspective synodale qui est en cours. Alors, c'est-à-dire que tout le monde doit dialoguer.
Une remarque qui revient souvent, Marie-Jo Thiel, c'est la question de la frustration sexuelle, de la frustration affective. Et là, à ce moment-là, la question du célibat est mise devant. Est-ce que vous pensez effectivement que la fin du célibat pourrait résoudre en partie cette question, ou bien est-ce que vous êtes du côté de ceux qui disent voilà très clairement bien les abus sexuels, ils sont majoritairement dans les familles et que finalement ça ne changera rien.
Alors c'est une question qui n'est pas aussi simple. Je crois que, alors, d'abord, le célibat ou le mariage ne règle pas le problème. Hein. Donc ça, on est bien d'accord. Mais ensuite, c'est vrai, vous avez raison, je note votre expression « frustration affective ». C'est-à-dire que certains sont absolument favorables, certains séminaristes sont absolument favorables au célibat au départ, et puis se rendent compte au bout d'une dizaine d'années que finalement, ils sont pas faits pour le célibat. Alors, est-ce que la question, c'est de les renvoyer, ou est-ce que la question, c'est de se poser une autre question, à savoir, est-ce qu'on peut pas réformer l'Église et finalement considérer que la question du célibat n'est pas le tout de cette perspective de l'ordre et qu'on peut accepter des hommes qui soient effectivement mariés, voire des femmes prêtres. Ça, la question se posera un jour ou l'autre, même si il faut pas se la poser dans la conjoncture actuelle, parce que si dans la conjoncture actuelle, ça entraînerait encore plus de cléricalisme à tous les niveaux. On en a déjà pas mal. Mais il faut s'interroger sur la question des ministères. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir la question du célibat. Parce que à ce moment-là, c'est un célibat qui devrait plutôt être, à mon sens, choisi. Et donc, ça vaut le coup de se poser la question.
C'est-à-dire qu'il y aurait, comme dans l'Église, par exemple, orthodoxe, il y a ceux qui sont mariés et qui, après, sont ordonnés prêtres, et puis ceux qui décident d'être ordonnés prêtres et qui, donc, se marieront jamais.
Voilà, c'est exactement comme ça. C'est pas un mariage après l'ordination, c'est un mariage avant l'ordination.
C'est une piste pour vous intéressante à explorer pour l'Église catholique.
Oui, absolument. Voilà.
Dernière question, Marie-Jo Thiel. Là, je reviens à votre livre, L'Église catholique face aux abus sexuels. Il y avait tout un aspect historique dans ce livre, et vous rappeliez effectivement les années 60, les années de toutes les transgressions. Aujourd'hui, effectivement, on revient sur ces années-là, beaucoup.
Oui, parce que je crois qu'il faut bien comprendre que dans l'Église, il faut parler de perspective systémique pour comprendre les abus. C'est-à-dire que beaucoup d'éléments, il n'y a jamais un élément, même la frustration affective n'est qu'un élément de l'ensemble de l'autoritarisme, d'une manière de voir la hiérarchie, etc. Mais cette perspective systémique où beaucoup d'éléments se potentialisent, l'image du prêtre, etc., il y a aussi la perspective systémique de la société elle-même. Et dans cette perspective systémique de la société, les années 60, le libéralisme, vouloir s'émanciper de toute autorité, etc., ont joué un rôle. L'image qu'on avait de la sexualité, l'image de l'homme et de la femme, etc., ont joué un rôle important. L'image du consumérisme, vous voyez. Et on peut parler aussi d'une perspective systémique à l'intérieur de la société. Et ces différentes perspectives systémiques se potentialisent les unes les autres. Je vous rappelle que quand même à l'époque, le viol, ça n'existait pas. Les tribunaux considéraient que c'était juste une petite agression sexuelle. Donc ça, c'était au niveau de la société. A fortiori dans l'Église, c'était pareil. Tous ces éléments se potentialisent mutuellement. Donc je crois que l'Église a besoin de la société a besoin de l'Église, mais dans une exigence responsable et sans concession. Il faut que l'une stimule l'autre et l'oblige à, d'une certaine manière, à faire pression l'une sur l'autre pour qu'on avance ensemble, en société et en Église.
Je vous remercie, Marie Jautiel. Donc, je rappelle ce livre vraiment dont je conseille la lecture, L'Église catholique face aux abus sexuels. Donc, c'était publié en 2019 aux éditions Bayard. Je vous remercie, madame.
Merci beaucoup à vous.
On reste encore quelques instants dans les suites du rapport Sauvé avec la polémique rapidement éteinte sur le secret de la confession. La commission avait en effet relevé que le secret de la confession ne pouvait déroger à l'obligation de signaler à la justice les cas de violences sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables. En réponse, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, déclarait dans les heures qui ont suivi que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République, déclenchant une levée de boucliers et une invitation par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, à venir s'expliquer. Au terme de cette rencontre, l'archevêque de Reims reconnaissait une maladresse de formulation. Le rapport dans l'histoire entre le spirituel et le temporel a fait l'objet d'une étude très fouillée de Mgr Gérard Defoy, 91 ans, qui publie chez Salvator « La laïcité, une religion nationale » avec un point d'interrogation, 25 siècles de controverses. Mgr Gérard Defoy a été secrétaire général de l'épiscopat français. Il est l'ancien archevêque de Sens, Auxerre et Reims. Il est évêque émérite de Lille. On écoute déjà sa réaction sur la polémique autour du secret de la confession.
Oh, c'est surtout une incompréhension parce que je crois que le ministre de l'Intérieur, bien qu'il fût naguère mon paroissien, n'est pas un pratiquant de la confession régulier. Et d'autre part, je pense que beaucoup de gens qui parlent du sacrement de pénitence n'en connaissent rien. Alors, la question de la confession, je pense que les gens qui sont profondément responsables de leurs actes ne viennent pas le confesser ça à un prêtre. Et en fait, moi, j'ai jamais vu et entendu quoi que ce soit de ce genre. En fait, à ce moment-là, c'est pas la confession qui les intéresse, c'est de ne pas être connu.
Vous estimez donc que c'est en quelque sorte un faux problème, une fausse question qui a été posée.
Tout à fait. Alors, s'il faut répondre à la question, je dirais que si premièrement, moi, de toute ma vie de prêtre, j'ai jamais vu ça. Hein, mais par contre, si on me rapportait quelque chose de ce genre, je dirais effectivement, je ne peux absolument pas donner le pardon de Dieu, car c'est pas moi qui pardonne. Donner le pardon de Dieu à quelqu'un qui ne veut pas faire justice. Les deux ou trois cas que j'ai eus moi-même, souvent d'ailleurs c'est soit la police, soit le procureur de la République qui m'appelait, qui était informé avant que je le sache. Ça n'est jamais arrivé que ce soit au cours de confession.
Alors, vous avez été donc pendant la période incriminé par le rapport Sauvé, puisque c'est un rapport qui remonte aux années 50. Vous avez été secrétaire général de l'épiscopat, vous avez été archevêque de Sens, Auxerre et Reims, puis à Lille. Est-ce que vous vous êtes senti concerné par ce rapport, par les résultats de ce rapport?
Oui, parce que si vous voulez, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez. Je l'avais pourtant quand j'ai passé l'examen, j'irai à la SIAZ, beaucoup développé. C'est ce qui s'est passé dans les années 68. En 68, j'ai débuté mon enseignement à l'Institut catholique de Paris, mon enseignement en sociologie. Et j'ai été étonné de voir s'effondrer des générations de prêtres, de religieux, d'éducateurs, par rapport justement à cette destruction des règles et des repères dans ce domaine, et des saints gens qui ont du jour au lendemain une sorte de sexualité sauvage, des comportements tout à fait, je dirais, sans harmonie, sans responsabilité. Alors, à ce moment-là, perdant tout repère, tous les comportements étaient possibles. Même ces abus sexuels étaient à ce moment-là exprimés comme une libération sexuelle. Et donc une sorte d'émancipation et de responsabilité de sa propre sexualité, dans la mesure où on s'écartait des règles établies.
Vous estimez donc que l'Église, en quelque sorte, aurait reçu l'influence d'une culture ambiante?
Oh, tout à fait. C'est-à-dire que l'Église n'est pas à part de la société. Et je dirais même que pour un certain nombre de cas, parce que j'ai vu que des vocations religieuses et sacerdotales qui s'effondraient à ce moment-là, des vocations enfin de gens qui étaient déjà prêtres ou religieux, c'est que il me semble qu'à ce moment-là, il y a eu ce à quoi on avait consacré sa vie s'est écroulé. Et donc, on s'est trouvé devant un vide. Et il y a eu une fringale, je dirais, de la consommation du désir, de la réalisation de tous ces affects pour être pleinement soi-même et participer à la vie commune. On l'a vu d'ailleurs dans les premiers temps avec la façon dont des prêtres, des religieux se sont mariés sans prendre en compte ce que c'était que de fonder un foyer, que d'avoir des enfants, etc. Il me semble qu'il y a là, je dirais, collectivement, une sorte de désappointement par rapport à l'évolution de la société. Alors que l'Église, dans sa vie, je dirais, ministérielle, dans sa vie pastorale, soit concernée par le rapport de la SIAZ, c'était absolument évident. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce qui s'est passé dans les années 50 à 70 comme destruction des repères.
Et dernière question, Monseigneur, est-ce que vous vous êtes senti, je dirais, visé vous aussi, en quelque sorte, puisque vous avez appartenu à ces générations concernées, par cette culture de l'omerta, donc dénoncée évidemment dans le rapport Sauvé?
Comme évêque, ce que j'ai ressenti, c'est que les problèmes m'arrivaient quand ils étaient devenus intraitables. Et qu'en fait, l'omerta, elle me précédait. Et souvent, les prêtres n'osaient pas me dire ce qu'il y avait comme problème, etc., ou je l'apprenais par accident. Et donc, je pense que là-dessus, il y a eu un manque d'objectivité, mais c'est autant mental qu'autre chose, que structurel, où ces questions étaient... On avait l'impression, effectivement, les gens se sentaient coupables et voulaient que ça ne soit pas pour moi, comment dirais-je, l'occasion d'un désaveu de ce qu'ils étaient. Alors, il y a eu cette protection que les coupables se sont donnés jusqu'au moment, effectivement, où, pour une fois, les familles ont commencé à porter plainte et soit ils venaient me trouver, mais souvent ils étaient d'abord allés voir la gendarmerie ou le procureur de la République. C'est ce qui permettait, en dehors, je dirais, de toute question de loi, c'est ce qui permettait au pont de voir clair. Parce que lorsqu'il y a aussi des difficultés qui vous sont rapportées, eh bien, les intéressés, si j'ose ainsi parler, ne reconnaissent pas ce qu'on leur reproche.
Monseigneur Gérard Defoy, je vous remercie. Je rappelle donc que vous publiez aux éditions Salvator « La laïcité, une religion nationale, 25 siècles de controverses ». Merci. Fiches illustrées, 40 portes d'entrée pour comprendre avec des cartes, des graphiques, des tableaux et des analyses claires et synthétiques la complexité des religions et leur rôle sur la scène internationale. C'est le pari réussi de David Vauclair qui signe dans une coédition Erol Iris, géopolitique des religions et des spiritualités. David Vauclair est notre invité. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, spécialiste de géopolitique et d'histoire contemporaine, vous enseignez notamment à Boston University et à l'ILERI, donc l'école des relations internationales. Vous avez signé chez Erol d'autres livres, dont un livre sur les convergences et les divergences des religions monothéistes. Alors, c'est effectivement tout à fait vrai, les religions occupent une place prépondérante, grandissante sur la scène internationale et que leur rôle, en fait, est ambigu. Il y a certains qui disent que les religions, c'est un facteur de violence, facteur de guerre. Et puis, d'autres, plus mesurés, vont regarder et se dire « mais non, les religions, c'est aussi, ça peut être aussi la paix ». Est-ce que c'est ce travail de clarification, en quelque sorte, que vous avez voulu mener, David Vauclair ?
Oui, tout à fait. C'est ce travail que j'ai souhaité mener, c'est-à-dire que dans le travail d'enseignant que j'ai, en donnant des cours de géopolitique, on voit tout à fait que l'acteur religieux est un acteur fondamental qui intéresse d'autant plus les étudiants qu'ils le croisent avec régularité dans les actualités, mais aussi dans leur quotidien. Et il y avait beaucoup de points, beaucoup de choses, beaucoup de questions qui restaient ouvertes. Et donc, grâce à l'ILERI qui m'avait confié un cours pour leurs étudiants de master pour qu'ils explorent justement ce côté religieux, ça m'a permis de développer un certain nombre d'idées, et puis ensuite, donc, ces idées sont naturellement devenues un ouvrage.
Alors c'est intéressant, comment précisément les jeunes réagissent-ils face aux religions et à la géopolitique Des religions. Est-ce qu'ils estiment qu'elles sont facteurs de guerre? Moi, je l'entends souvent. Hein.
Alors oui, et parallèlement, ça dépend de quel jeune on parle.
Évidemment.
J'ai la chance d'avoir des classes qui sont très internationales, avec des étudiants américains à Boston University, et puis des étudiants français, mais aussi des étudiants étrangers qui viennent à l'Hillary. Et on peut voir que ça dépend également de la foi et de la société d'où viennent les gens. Plus on vient d'une société sécularisée, et plus finalement vous vous adressez à un public qui connaît peu ou mal les religions, plus ceux-ci, avec une certaine logique, voient les religions comme une menace et comme finalement quelque chose qui vient bouleverser un quotidien qui, sinon, serait tout à fait harmonieux. En revanche, pour les étudiants qui ont la foi et qui souvent viennent de sociétés qui peuvent être moins laïques ou bien moins sécularisées que la nôtre en France, eh bien, alors là, les religions apparaissent beaucoup plus comme un ferment commun, un ciment, somme toute, qui permet donc de construire ensemble une vie qui est meilleure et somme toute plus ouverte et plus tolérante.
Alors, comment précisément prendre le pouls, hein, j'allais dire, des religions à travers le monde? Il y a les chiffres, hein, vous aviez des chiffres tout à fait intéressants. Les 2,3 milliards de chrétiens aujourd'hui, le 1,9 milliard de musulmans, le 1,1 milliard, presque 2 même, de non-affiliés. Ça, c'est très intéressant, cette majorité silencieuse, suivie du 1,1 milliard d'hindous. Puis après, il y a le bouddhisme, 500 millions, etc. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter sur les deux monothéismes qui, à un moment donné, dans, on va dire, quelques décennies, seront à peu près à part égale, on peut le supposer, hein, avec l'essor démographique? Est-ce qu'il faut s'arrêter alors sur ces monothéismes ou bien plutôt sur ces non-affiliés? Est-ce que ces non-affiliés, ceux qui ne se reconnaissent dans aucune religion, qui sont ce qu'on appelle les nones, aux États-Unis, une part très grandissante aussi en Europe, est-ce que ce sont ceux-là qui feront demain la différence?
Alors, je ne sais pas de quelle différence il s'agit, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les non-affiliés, ceux qui ne croient pas, ne croient peu ou ne souhaitent finalement pas s'exprimer sur le sujet, eh bien, sont une part qui est une part à la fois grandissante des pays européens et d'Amérique du Nord, mais une part qui diminue au niveau mondial. Et donc, on estime qu'effectivement, si aujourd'hui ils sont à 1,2 milliard, ils le seront également en 2050, ce qui signifie que proportionnellement, ils seront moins. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils font moins d'enfants. Et le fait est qu'on se retrouve finalement avec un biais qui est un biais intéressant. Alors, je suis content que vous l'ayez remarqué, parce que c'est souvent finalement un des angles morts de la question religieuse. Habituellement, quand on interviewe quelqu'un ou quand on invite quelqu'un à parler de religion, on invite un religieux, à la fois donc soit le spécialiste, un prêtre, un rabbin, un imam, soit sinon quelqu'un qui est profondément croyant. Or, la majorité des gens, y compris les gens qui se disent appartenir à une religion, ne le sont pas autant. Et j'aime à rappeler que souvent en France, si on essaye de s'adresser finalement aux catholiques moyens, on va inviter assez logiquement un cardinal, un évêque, éventuellement un prêtre. Or, le catholique moyen, c'est une catholique, elle a 62 ans, et donc elle va à l'église une à deux fois par mois au maximum. Et ça n'est jamais elle vers qui on va se tourner pour lui demander « Mais somme toute, madame, qu'est-ce que le catholicisme ?» Et c'est là où, à mon avis, il y a une réalité sociologique qui est intéressante à explorer parce qu'elle permet justement d'obtenir peut-être un principe plus important de réalité sur la question religieuse dans les différents endroits qui vous intéresseraient et pour pouvoir répondre à votre curiosité.
Mais effectivement, David Vauclair, ce qui ressort de quelques fiches de votre essai géopolitique des religions et des spiritualités, c'est que il est très compliqué de sonder la foi d'une personne ou même sonder son sentiment religieux, sa spiritualité, parce que la spiritualité, ça bouge. Certains sont croyants le matin, agnostiques l'après-midi, incroyants le soir ou le contraire. Donc c'est très complexe d'arriver à quantifier en quelque sorte la foi d'une personne ou son appartenance même religieuse.
Oui, vous avez raison, et c'est justement ça la difficulté pour le sociologue des religions ou le géopolitologue. Quand vous vous adressez à quelqu'un et que vous lui dites « mais est-ce que vous êtes religieux ?» et qu'il vous répond « oui », c'est habituellement insuffisant, puisque en fait, derrière, il faut savoir si la personne est croyante, si elle est croyante et pratiquante, parce que ça fera une différence réelle socialement, ou bien alors si elle est simplement culturellement religieuse ou socialement religieuse, qui sont fond de différence aussi. Si vous habitez en Iran ou au Maroc, vous vous inscrirez dans votre communauté religieusement, mais ça ne signifie ni que vous êtes particulièrement croyant, ni particulièrement pratiquant. Et le fait est que si on vous pose la question, évidemment que vous répondrez, parce que sinon les questions sociales trop importantes vous mettraient à mal que oui, vous appartenez à cette religion-là. Mais à la rigueur, c'est pas forcément une question que vous vous poseriez sinon. Et c'est un peu la même chose en France, quand aujourd'hui on essaye de demander mais finalement combien de catholiques ou combien de musulmans, on se rend compte que si on prend les musulmans, il y a quand même 60% de musulmans qui se reconnaissent d'abord comme étant avant toute autre chose culturellement musulman, mais ni particulièrement croyant et certainement pas pratiquant. Et si on regarde pour les catholiques, on se rend compte aussi que, alors la très grande majorité des gens qui s'estiment catholiques, eh bien, sont en fait ni particulièrement croyants et alors absolument pas pratiquants. Et ça implique des décalages qui sont assez profonds entre l'image que l'on peut avoir d'un pays, le sens de l'identité qui est fondamentale pour les gens, et puis après la réalité religieuse de ce pays, puisque c'est vrai qu'une religion sans pratique pose un certain nombre de problèmes, enfin, je dirais à la fois philosophiques et politiques.
Alors, ça veut dire quoi exactement, David Vauclair, la géopolitique des religions? Est-ce que c'est, alors c'est pas une question de rapport de force évidemment, mais il n'empêche que quand même c'est cette imbrication, on peut le supposer, étroite entre l'action politique, le politique, parfois l'idéologie d'ailleurs, et la religion.
Oui, et j'ajouterais à cela finalement le contexte géographique qui prime, puisque vous avez, enfin je pense que nous avons tous l'expérience de visiter, de voir ce qu'est une religion dans un pays, et puis donc si on a la chance de voyager, de voir que la même religion s'exprime parfois fondamentalement différemment dans un autre pays, parce que le cadre culturel plus général, la société, le climat, enfin une multitude de propriétés, absolument,
oui.
Va vous entraîner à croire et à exprimer votre croyance et votre pratique de manière différente. Vous parliez de l'urbanisation, c'est un fait fondamental aujourd'hui. Hein. 10% de la population était urbanisée au début du XXe siècle et donc aujourd'hui 56% et demain donc autour de 2/3 à 68%.
68%, c'est ça, ce qui fait peur d'ailleurs par rapport aux épidémies, mais ça c'est une autre question.
Oui. Absolument, mais donc ça entraîne derrière une transformation religieuse aussi et puis parallèlement également de manière paradoxale deux choses. À la fois parce que quand vous avez plusieurs personnes de foi différentes qui se réunissent dans un même endroit et qui est un petit endroit, ça vous permet de relativiser le fait religieux et souvent ça va pousser à une forme de sécularisation. Et donc d'un autre côté, ça va aussi pousser à une forme de radicalisation puisque bien évidemment, vous voulez protéger ce qui fait la substantifique moelle, la pureté de votre foi et donc justement vous essayez de la mettre en avant, en tout cas pour une minorité, c'est ce qui arrive avec régularité, vous essayez de la mettre en avant d'une manière peut-être plus agressive qu'auparavant où, somme toute, votre religion était majoritaire et indiscutée au sein d'une société donc moins urbanisée.
Ce que vous voulez dire, c'est que la ville favorise la concurrence religieuse?
La ville favorise évidemment la concurrence religieuse et de cette concurrence, vous avez effectivement un certain nombre de points que je viens d'évoquer qui se développent automatiquement et globalement.
Les religions, alors on reste bien sûr là dans le domaine de la géopolitique impure, là, la question de la religion d'État, qui est quand même très importante, ce qui influence totalement votre mode de vie, la politique évidemment. Il y a 40% des pays qui ont une religion d'État, et que la majorité de ces pays, c'est ça, sont des pays musulmans,
absolument. Alors, religion d'État ou religion favorisée?
Favorisée,
c'est-à-dire
oui.
Que vous avez soit des religions d'État où la religion officielle est donc une religion particulière, et donc ça implique de la part de l'État un certain nombre de décisions qui vont dans la direction du dogme que propose cette religion. Mais vous avez aussi des États qui ont des religions favorisées, c'est-à-dire que la religion n'est pas officielle, mais en revanche l'État prend en considération justement un cadre culturel et un cadre historique qui font que de facto la religion est favorisée, ne serait-ce que parce qu'elle a une histoire ancienne et elle s'applique finalement dans cet État de manière forte. On peut penser à la Pologne et le catholicisme, par exemple.
Et cela, effectivement, les conséquences aujourd'hui, comment les voyez-vous ?
Les conséquences, en fait, sont toujours une question de discussion par rapport aux grandes questions qui sont les questions de tolérance, les questions de liberté. L'un des points intéressants, à mon avis, de la question religieuse, c'est toujours la liberté de croire qui est liée à la liberté de ne pas croire.
Oui.
Et la grosse difficulté, c'est aussi la liberté de croire en autre chose que en quoi on a cru. Et la grosse difficulté pour beaucoup de religions, c'est justement d'accompagner ce changement, et en règle générale, elles ne l'accompagnent pas, elles s'y opposent. Et ça peut entraîner des difficultés. Il est évident que dans les 60% de pays dans lesquels il n'y a pas de religion d'État, ces changements donc sont plus aisés que dans ceux où la religion est d'État, où là, c'est beaucoup plus difficile. Et puis derrière, l'aspect religieux, on parle d'un aspect spirituel, mais on parle évidemment d'un aspect social. Et finalement, le propre du religieux, même si c'est presque un peu bizarre de le dire ainsi, n'est pas tant la question spirituelle que véritablement la question politique et sociale. Comment allons-nous vivre ensemble avec une foi commune ? Et quitte à être même un peu choquant, j'exagère à dessein, le fait est pas tant de savoir si cette foi commune doit être discutée ou pas, la question est de savoir mais comment, quelles sont les règles qui vont nous permettre de vivre ensemble ? Et cette idée de vivre ensemble, eh bien, elle va être différente selon que vous ayez un cadre dogmatique ferme et religieux, comme par exemple en Iran, ou bien alors si vous avez un cadre beaucoup plus lax, comme par exemple en France.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invité est David Vauclair pour son essai Géopolitique, des religions et des spiritualités. 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Sur ce retour du religieux, en 1997, si je ne m'abuse, Samuel Huntington donc dit clairement qu'il y aura un choc entre le bloc occidental et le bloc, on va dire, musulman. Ça a été très critiqué, comme une pensée dangereuse, une pensée à risque. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, la force de la théorie de Samuel Huntington, c'est que elle a fonction de prophétie autoréalisatrice. Et donc, évidemment, si vous percevez votre voisin comme un danger, à un moment, même si votre voisin reste neutre par rapport à vous, ni fondamentalement bienveillant, ni fondamentalement malveillant, toute action qu'il mènera à faire, vous le percevrez, vous le coloriez d'une teinte particulière. Je ne sais pas si ça vous arrive, certains matins, vous vous levez heureux et donc, finalement, peu importe ce qui vous arrive le reste de la journée, c'est une bonne journée. Et puis, il y a des matins où c'est difficile, vous vous levez malheureux et tout le reste de la journée devient extrêmement pénible. Et finalement, la même action prend une teinte totalement différente. L'inconvénient de Samuel Huntington, c'est que très rapidement, on peut rentrer dans cette forme, disons, de psychologie. Ceci dit, il y a un certain nombre de points forts dans la théorie de Huntington, ce qui fait qu'elle a tendance à avoir influencé des décisions gouvernementales importantes, que ce soit sous George Bush le deuxième, George Walker Bush, le fils du premier, ou que ce soit par exemple auprès de Vladimir Poutine, un de ses grands conseillers géopolitiques, qui s'appelle Monsieur Primakov, Evgeny Primakov, a toujours trouvé que Huntington avait raison, et donc à partir de ce moment-là, ça avait un impact et une importance sur la manière finalement de considérer l'ère d'influence russe qui correspond pour Primakov à une ère d'influence orthodoxe. Et donc parallèlement, vous avez pu le voir aussi auprès donc de Monsieur Trump, un certain nombre de ses conseillers qui aussi étaient extrêmement séduits par les thèses huntingtoniennes. Alors sont-elles justes, sont-elles fausses ? C'est une question qui est un peu compliquée. Mon avis personnel, c'est qu'elles sont plutôt fausses, mais le fait est que elles ne sont pas intégralement fausses, et c'est vrai qu'elles impliquent en fait une alternative à la fin d'un monde idéologisé comme au XXe siècle. Huntington répond à Fukuyama qui avait écrit en 92 un article qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'intitule « La fin de l'histoire ». Et donc, dans cet article, Fukuyama expliquait que après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, il n'y avait plus qu'un seul modèle, et c'était un modèle de démocratie libérale et capitaliste. Et il disait, en fait, bien évidemment, il y aura encore des événements, mais cela étant dit, dans ce cœur-là, vous n'aurez plus véritablement de questions
de civilisation
totalement alternatives à l'idéologie principale qu'est la démocratie libérale, mais des questions qui seront à l'intérieur de ce cadre-là. Et Huntington dit non. Justement, vous allez avoir d'autres questions et véritablement d'autres oppositions fortes. Et pour lui, ces oppositions seront d'abord des oppositions civilisationnelles. Et la première chose qu'on a posée à Huntington comme question, c'est « mais qu'est-ce qui fait une civilisation ?» Ce qui est quand même une question difficile, auquel il n'a pas complètement répondu, mais essentiellement, il dit « le cœur des civilisations, c'est en règle générale les religions ». Et ça a signé pour le monde académique, le monde universitaire, le retour du religieux. Alors, il n'est jamais vraiment parti, mais on a vraiment commencé à partir de ce moment-là à en parler, à écrire et puis donc à fournir un travail très important intellectuel pour essayer de mieux comprendre le monde sous ce prisme-là.
Alors, on reste toujours dans la géopolitique des religions avec vous, David Vauclair. Il y a une fiche que j'ai trouvée très intéressante, c'est sur le rôle des acteurs transnationaux. Mmh. Parce que si, effectivement, il y a les États, leur politique, il y a aussi ces acteurs ces ONG ou ces organismes internationaux. Et là, je pense effectivement à la création en 1962 par l'Arabie Saoudite de la Ligue Islamique Mondiale, de l'OCI, ensuite toujours par l'Arabie Saoudite en 1969, et que l'OCI, effectivement, dicte quand même des règles qui sont à souligner, hein, notamment concernant sa vision des droits de l'homme. C'est une vision qu'elle oppose à la vision qu'en Occident nous avons.
Oui, vous avez effectivement des alternatives qui vont être proposées à la fois à une vision occidentale et puis aussi à une vision universaliste, donc celle qui est défendue par les droits humains, la déclaration des droits de l'homme. Et le fait est que vous allez avoir, bien évidemment, au cœur de ces acteurs religieux, un projet qui est souvent un projet prosélyte, c'est-à-dire un projet de conviction et de conversion, et puis derrière un projet de défense des intérêts de la religion, donc c'est-à-dire ses dogmes, et puis en même temps, derrière des populations qui y obéissent déjà.
Par exemple, la question du blasphème.
Par exemple, la question du blasphème, ou par exemple, la question de l'apostasie, c'est-à-dire l'idée de ne plus croire, qui pose évidemment beaucoup de problèmes dans un cadre musulman, puisque il est tout à fait simple de se convertir à l'islam, mais il est très compliqué, en fait techniquement impossible, de quitter l'islam sans encourir des risques qui sont des risques majeurs, voire mortels. Donc le fait est que là-dessus, vous allez avoir effectivement un certain nombre de questions.
Alors focus avec vous, David Vauclair, sur l'Afrique. Mais d'abord, un continent où la diversité, finalement, n'est pas si grande en réalité.
Alors, ça dépend où vous vous trouvez en Afrique.
Alors là, je m'appuie sur les cartes.
Bien sûr. Donc, vous avez, je pense, un travail cartographique important qui a été fait, puisque c'est le propre de cette collection, que d'avoir, somme toute, un court chapitre qui accompagne une carte ou une carte qui accompagne un court chapitre. Et donc, c'est toujours plus intéressant de pouvoir voir les cartes. Ouais. Mais on remarquera effectivement que, alors, pour la question de la diversité religieuse, on essaye de voir si se trouvent sur un territoire donné les 8 groupes les plus importants religieux et finalement s'ils vivent dans quelle harmonie vivent-ils ou manquent d'harmonie. Et on se rend compte que le continent africain a une partie de son continent qui peut être effectivement très plurielle, très variée, mais que si on regarde la majorité des 54 pays africains, on se retrouve avec dans cela une majorité de pays qui ne sont finalement pas si pluriels que cela.
C'est ça. Et les pays pluriels, ça va être la Côte d'Ivoire en premier, très élevé. Le Bénin aussi. Le Nigeria, un peu moins, mais
un
quand
peu
même
moins,
forte.
Mais tout de même fortement. Ouais. Et puis, donc, derrière, on peut voir dans ces pays, d'ailleurs, des exemples, et de nouveau, ces exemples doubles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à la fois des exemples de radicalisation et des exemples, finalement, de problèmes, mais aussi des exemples de tolérance et puis, finalement, d'échange et puis de construction, qui est une construction constante d'un modèle commun. Et donc, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez un accompagnement des deux. La pluralité entraîne à la fois, je dirais, une forme de mixité et de tolérance plus grande, et parallèlement aussi une forme de radicalité plus grande. Et c'est après à chacune de ces sociétés d'essayer d'y répondre le plus et le mieux possible.
Alors, je ne sais pas si c'est une prophétie, le futur de l'islam est asiatique et le futur du christianisme est africain.
Alors, en tout cas, démographiquement.
Démographiquement.
C'est-à-dire que après, bien évidemment, beaucoup de choses peuvent changer, mais si vous regardez la démographie, vous pouvez constater qu'au niveau du christianisme, donc le christianisme qui historiquement est, disons, méditerranéen, mais principalement européen, eh bien, est maintenant américain, que ce soit d'ailleurs du Canada, pays catholique, on l'oublie souvent, donc à l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Mais après, où se développe-t-il et où est-il en constante expansion, eh bien, c'est en Afrique. Ce qui signifie que, bien évidemment, le catholicisme de demain, démographiquement, c'est un catholicisme aujourd'hui, donc américain et ensuite africain, mais demain, il sera d'abord africain, ensuite américain, ensuite probablement asiatique et enfin européen. Et ça entraîne, bien sûr, des tensions parce que vous avez le poids de l'histoire et puis le poids des symboles qui est, bien sûr, hein, méditerranéen et centré sur, disons, l'Italie et le Vatican, pour simplifier. Et puis, si vous regardez l'islam, vous avez le même genre de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que tous les musulmans ne sont pas arabes et que tous les arabes ne sont pas musulmans, mais souvent...
Que l'Indonésie est le premier pays musulman au monde. Oui.
Et souvent, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'en fait, les arabes qui sont musulmans, c'est que 20% des musulmans aujourd'hui, et ils le seront moins demain. Et que véritablement, si on prend l'Asie en étant généreux aujourd'hui, on est à 2/3, mais entre 2050 et 2100, vraisemblablement, on sera plutôt autour de 3/4 des musulmans en Asie, en dehors du Moyen-Orient. Et donc, ça implique des transformations et finalement d'autres formes d'équilibre que celles qui peuvent avoir lieu aujourd'hui. Vous parliez de l'Indonésie comme premier pays musulman du monde, c'est vrai. Demain, et vraiment quand je dis demain, c'est 2030, hein, donc c'est vraiment pas très longtemps, le fait est que ce sera l'Inde. Et ce sera donc le premier pays musulman démographiquement du monde, avec en fait la première minorité musulmane. Et quand on connaît le nationalisme hindou aujourd'hui, et Monsieur Modi qui est au pouvoir, on peut anticiper des tensions qui seront des tensions très fortes. Et donc à partir de là, vraisemblablement, des déchirements.
Donc 200 millions de musulmans dans une Inde hindouiste quand même, par son identité.
C'est ça.
Ça peut donner quoi?
Ça donnera forcément des tensions. Vous aurez des tensions politiques qui seront très fortes parce qu'on ne peut pas ignorer une minorité aussi importante. Vous avez parallèlement donc un continent qui est un continent entre guillemets qui a été lié nouvellement depuis Gandhi et Nehru, et donc qui à partir de ce moment-là a besoin aussi de construire son nationalisme. Donc on peut aussi comprendre la méthode mise en place par Monsieur Modi pour essayer finalement de garantir que les Indiens, au travers de l'hindouisme, aient une fierté nationale commune et puis un style de vie commun. Donc il y aura très vraisemblablement des oppositions. Mais parallèlement aussi, forcément avoir un monde qui est entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est et qui sera le cœur battant démographique de l'islam, ça signifie qu'il va y avoir parallèlement des tensions sur les interprétations et sur les écoles de jurisprudence. Comme vous le savez, au sein de l'islam, vous avez différentes manières de comprendre le dogme, différentes écoles, chafite, malékite, wahhabite, etc. Et le fait est que vous allez avoir un prisme d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est qui va petit à petit, assez naturellement, prendre le dessus et donc créer des tensions qui seront des tensions fondamentales entre, par exemple, le Moyen-Orient, cœur historique, et donc le cœur démographique que sont les pays que nous venons d'évoquer.
Il y aura peut-être de nouvelles écoles.
Il y aura sûrement de nouvelles écoles, des nouvelles interprétations, mais après aussi, il y aura des relations de force pour savoir quelle interprétation doit primer et quelle est finalement la voie la plus juste.
Je vous remercie, David Vauclair. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique des religions et des spiritualités, une coédition Iris Erol. C'est la fin du Religion du Monde. Geneviève Delru, Véronique Durand, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Tout à l'heure,